Bonjour à tous. Bah écoutez, je suis heureux de vous retrouver, tous les chers auditeurs, pour ces répliques du nouveau conservateur. Paul-Marie Couteau ne sera pas là aujourd'hui ni la semaine prochaine, vous le retrouverez bientôt. Nous parlerons avec lui tout à l'heure des derniers numéros du Nouveau Conservateur. En tout cas, sachez que le numéro 30 est toujours en vente, qui s'appelle Souveraineté numérique. Les carottes sont-elles cuites? Il y a même des carottes en couverture. Mais aujourd'hui, nous allons parler de sujets plus littéraires, historiques aussi, contemporains, on va le voir. J'ai le plaisir de recevoir deux invités. On va recevoir tout à l'heure François Cereza pour Nos amis les traîtres, retour sur une spécialité française, la trahison. C'est un livre dictionnaire qui vient de paraître aux éditions Le Cherche Midi. Et puis j'ai, alors vous savez, François Cereza, c'est le rédacteur en chef fondateur de la revue Service littéraire, qui est un magazine papier qui sort tous les mois. Et puis j'ai l'heureux plaisir de recevoir Sylvie Bonin. Bonjour Sylvie.
Bonjour Gilles.
Voilà Sylvie Bonin qui est déjà venue dans la radio il y a quelques temps déjà, qui est journaliste, qui publie un nouveau livre, ou plutôt un premier roman, et ce qui a attiré toute mon attention, qui s'appelle Le Valet de Cœur, qui est publié aux éditions Le Lys Bleu. Alors on lui doit plusieurs livres, dont deux livres très parisien, si j'ose dire, dans la collection, enfin chez Parigramme, c'est « Je me souviens du 14e arrondissement » et « Je me souviens du 17e arrondissement ». Et vous aviez aussi, Sylvie, publié « La grande aventure de l'eau » chez Privat en 2001. L'eau, c'est toujours d'actualité. Hein.
Oui, surtout aujourd'hui,
ouais.
Où il pleut.
Ouais. Comment vous aviez abordé le sujet?
On m'a demandé un livre sur l'eau, et donc je suis partie dans toutes les directions.
Ouais.
Alors c'est l'eau c'est les grands mythes, c'est les religions, c'est... C'est pour la mythologie grecque, ouais, le fondement du monde. C'est aussi, ouais, bien les sirènes,
ouais,
qui d'abord ont été des oiseaux,
ouais,
des sirènes, que
l'eau,
que l'écologie, que l'eau du thé. Que l'eau du thé. Sans eau, il n'y aurait pas,
ouais,
de thé.
Exactement. Alors j'ai appelé cette émission « Traîtrise et fatalité ». Alors, je vous réserve plutôt le mot fatalité pour votre valet de cœur, on va,
merci,
le voir, parce que c'est... Alors moi, c'est un roman que j'ai trouvé très profond, très sentimental... Très réaliste, mais en même temps avec des accents oniriques qui nous fait réfléchir sur l'âme humaine. C'est balancé entre une vision assez sereine, assez équilibrée de la vie et une autre beaucoup plus pessimiste, plus âpre, qui est attachée à une certaine idée de l'irrationnel et de la mort. Alors c'est un premier roman. En même temps, on sent que vous avez mis beaucoup de votre personne. C'est très délicat. On ne lâche plus le roman une fois qu'on est rentré dans le thème du sujet. Alors le thème, si j'ose dire, parce que ça peut faire fuir certains auditeurs, ou au contraire attirer en certains qui sont touchés, c'est le thème du cancer, c'est le thème de la maladie. Évidemment, la maladie, on sait qu'un Français sur cinq est touché, je crois, par le cancer. Ça touche toutes les familles. Moi, ça m'a touché aussi dans ma famille, puisque j'ai perdu une sœur il y a quelques années d'un second cancer. Donc, c'est une maladie, en fait, qui fait peur. Et en même temps, c'est une maladie qui réunit, en fait, tout ce que l'humain peut charrier, c'est-à-dire la crainte, la douleur, la sensibilité. On a peur aussi d'appeler ceux qui sont malades, parce qu'on a peur aussi de les déranger. Et puis, en même temps, on a peur parce qu'on se projette dans cette mort. Comment, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet du roman, sans dévoiler la fin, comment vous est venue l'idée d'accéder à ce thème à travers une jeune femme?
Alors déjà, effectivement, quand vous dites que cette maladie fait peur, on ne l'appelle pas le crabe par hasard. Ce n'est pas un animal très sympathique. Hein. On n'a pas envie de le croiser sur son chemin. En plus, il avance de travers, donc ce n'est pas terrible. Pourquoi? Parce que moi aussi, évidemment, j'ai été touchée dans ma famille de près, puisque j'ai perdu ma mère d'un cancer. Je l'ai assez accompagnée. Mmh. Et voilà, j'ai commencé ce roman il y a très longtemps, après sa mort, et puis je l'ai laissé tomber. Puis j'ai repris. Et bien sûr, ça m'a beaucoup touchée. J'ai, à travers elle, traversé beaucoup de choses.
Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un sujet a priori bateau, parce qu'on peut l'aborder par n'importe quel biais, si j'ose dire. Je sais bien qu'aujourd'hui, on est plongé dans ce fameux virus dont on nous rabat les oreilles. J'en parle même dans la revue de presse presque tous les jours, parce que là aussi, ça fait peur et qu'on a été confronté, toute une population, à ça, avec des maladies. Enfin, tout le monde a été plus ou moins touché. Là, le cancer, c'est assez ciblé. C'est-à-dire que vous racontez l'histoire d'une femme, Claire, je ne sais pas quel âge elle a dans le livre d'ailleurs, elle a quoi, une 45 ans?
Oui, c'est ça, exactement.
À peu près,
oui,
hein.
Oui.
Voilà, c'est un âge un petit peu charnière dans la vie d'un homme et d'une femme. Elle a eu deux enfants, elle s'est séparée, elle vit seule, elle est peintre à 16 heures. Mais c'est une femme libre. Mais le jour où elle apprend un peu... fortuitement, c'est toujours pareil, on n'est jamais assez préventif dans la vie, qu'elle est atteinte d'un cancer en phase 3, à ce moment-là, sa vie bascule, du moins son intelligence, son esprit se met en ébullition, et là, elle prend des décisions.
Exactement, sa vision de la vie bascule, parce que on sait tous qu'on partira un jour, on sait ni le jour ni l'heure, mais là, bah, elle est quand même en face d'une vie qui risque de se terminer, et qu'est-ce qu'elle en fait?
Ouais.
C'est un peu ça la question. D'abord, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à sa maladie? Et puis, qu'est-ce qu'elle fait de la vie qui reste? J'étais très frappée, il y a un film qui s'appelait Fauteuil d'orchestre, que j'ai vu il y a longtemps. Et à un moment, Claude Brasseur répond à son fils, tu sais, mon chéri, il y a un moment où c'est pas la vie qui passe, mais la vie qui reste.
Ouais, c'est ça.
Ça m'a frappée. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on apprend ça?
Donc c'est une femme, comment on peut la définir? Parce que c'est une femme qui vit à Paris, c'est une femme,
vit à Paris, oui.
Qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie?
Alors elle a été professeure de dessin, d'art plastique, comme on disait.
Ouais.
Et puis elle peint à 16 heures,
ouais.
et elle est donc un peu artiste, donc un peu, elle n'est pas forcément toujours très rationnelle.
Oui, elle a un peu bohème, quoi.
Voilà,
elle a un esprit qui n'est pas... Alors, elle raconte au début, ça aussi c'est un peu un miroir, elle va rencontrer une autre femme, enfin elle va revoir une femme, elle va partir à l'étranger. Ouais. Racontez-nous un peu pourquoi elle va la voir et comment elle se comporte avec elle.
Vous savez, on a dit, je crois que chacun... dans sa vie, à un certain âge, a de quoi écrire un roman, je veux dire, par ses rencontres, par les situations qu'on a vécues. Et bon, évidemment, mais
c'est
beaucoup
pas François Cereza qui rentre dans le studio qui dira le contraire.
Non. Et cette femme, cette Finlandaise, Tarja, c'est une femme qu'effectivement j'ai rencontrée, et ça, ce que je raconte est vrai.
Ouais.
Est vrai, c'est-à-dire que je la voyais une fois par an parce qu'elle venait, à Paris. Elle était journaliste d'un journal féminin, donc elle venait pour les collections, et puis... Bah, y a un jour où elle a su comme ça, pof, qu'elle était malade, et je suis allée la voir, et c'est tous les changements que ça a représenté en elle et pour elle aussi.
Ouais. En fait, dans un roman comme celui-ci, Le Valet de cœur, hein, publié au Lys Bleu, on verra pourquoi le titre après, parce qu'évidemment il y a toute une symbolique, presque une allégorie, je dirais, du livre. Avec cette couverture, on voit une montagne, on verra pourquoi. Cette Claire, elle recherche en fait, elle est sur la piste là, vraiment. On sent qu'elle est très atteinte par l'amitié et surtout par la tragédie, parce que c'est une tragédie de souffrir quand même d'un cancer. Et en même temps, elle reste assez sereine quand même.
Oui, tout à fait. Et comme elle est seule devant cette annonce et devant cette maladie, ben elle a besoin d'être entourée, elle a besoin de tendresse, elle a besoin d'aide. Et c'est à ça qu'elle réfléchit.
Oui. Alors, en revanche, ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'elle a quand même une fille et un garçon qui ne vivent pas... Alors, qui vit à l'étranger?
C'est le garçon qui vit à l'étranger.
Voilà. Et donc, elle n'en parle pas à ses enfants. Voilà, c'est le secret aussi. Maladie entraîne le secret, souvent.
C'est son truc. Elle veut pas faire souffrir. Elle ne sait pas, en plus, ce que ça va donner. Donc, non, elle a envie de les protéger.
Ouais. On peut parler du type de cancer dont elle est atteinte?
Oui, c'est un cancer du sein.
Ouais.
Comme beaucoup de femmes.
Qui est celui qui se guérit le mieux, dit-on.
Oui, oui. Et puis, il y a une chose, il y a une petite remarque que je voudrais faire. C'est que, je suis journaliste, donc l'exactitude de l'information, ça compte. Et puis... par respect pour les personnes qui vont lire, dont certaines peut-être ont été atteintes de cette maladie, pour leur entourage aussi, tout ce qui est écrit et qui concerne la maladie, je l'ai validé auprès d'un cancérologue pour être sûr que ce que j'écrivais, c'était possible ou plausible en tout cas.
Ouais.
Pour qu'on ne se dise pas, ben non.
Ouais. Alors, il y a une... presque une seconde partie dans votre livre, c'est qu'elle va prendre la décision. Alors pourquoi, ça c'est aussi le mystère des femmes, pourquoi elle va vouloir retrouver un garçon, un homme avec qui elle a vécu et qu'elle avait quitté elle-même, qui est un grand reporter, un journaliste, qui va être un homme de terrain, c'est un homme qui est impliqué dans la vie politique internationale, et donc elle va le rappeler, ils vont se revoir, et là, qu'est-ce qui va se passer?
Alors évidemment, au début, on peut penser qu'elle est un petit peu égoïste, parce qu'elle est seule avec sa maladie, avec cette tragédie qui lui arrive. Et bon, elle a envie de tendresse, de douceur. Et elle avait effectivement une histoire d'amour avec ce garçon qui était très amoureux d'elle, très très gentil. Et puis elle sortait d'un divorce avec un homme jaloux qui l'avait un petit peu emprisonnée en quelque sorte. Et elle avait pas, et lui était très amoureux, ce deuxième garçon. Elle avait pas envie de se retrouver comme ça sous une chape. Il était très exclusif et c'était trop tôt. Mmh. Donc quand elle a vu que vraiment il voulait faire sa vie avec elle, etc.
Elle a pris peur.
Elle est partie. Ouais. Donc effectivement, on peut penser que le fait qu'elle ait envie de le retrouver parce qu'elle avait des souvenirs de cet homme qui était si gentil, si tendre. Et bon, alors elle le retrouve pour, en fait, pour profiter de lui peut-être, en tout cas pour
alors, elle le retrouve, mais il se passe quelque chose, c'est qu'elle ne lui dit pas la vérité.
Bah non.
Et c'est ça, est-ce que dans ces cas-là, alors chacun réagit comme il veut, comme il peut, comme il doit, on verra pour les traîtres, il y a tellement de sortes de traîtres que là, il y en a certains qu'on peut pardonner et puis d'autres non.
On pourrait peut-être la mettre dans le livre,
oui,
celle-là,
exactement.
De François.
Mais bon, il va y arriver un moment où il va lui dire, alors je ne dis pas à quel moment, mais là, elle vit sur son petit nuage. Et alors, il y a une scène assez jolie puisque il se retrouve... dans une salle à salle Pleyel, tout simplement. Elle portait des boucles d'oreilles qu'il lui avait offertes, des petits éléphants en or. Il se souvenait lui avoir dit alors, les éléphants ont beaucoup de mémoire, ils t'obligeront à te souvenir de moi. Les portait-elle par hasard? Il feignit de ne rien remarquer. Et il se retrouve en écoutant la 5e symphonie de Mahler, mm-hmm. qui est une des plus belles peut-être de Mahler, la plus mélancolique en oui. soi. Hein. Évidemment, ça renvoie à Mahler lui-même, mais ça renvoie aussi au chef-d'œuvre de Visconti, Mort à Venise, alors que le livre de Thomas Mann s'appelle La Mort à Venise, d'ailleurs. C'est un
petit... Ah oui ?
Oui, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est quand même magnifique. Et puis, vous savez, dans le livre... Dans le livre, c'est un musicien, et dans le film, c'est un écrivain aussi. Oui. Il y a des petits changements. Et puis, Antoine se rappela qu'il avait vu ce film avec Claire. Était-ce encore l'effet du hasard si elle lui avait proposé d'aller écouter cette symphonie, justement celle-là? Alors, quelle va être sa réaction? Qu'est-ce qui va faire que Claire va avoir une sorte d'appel d'air?
Claire ou lui? Claire.
Claire, oui.
Bah,
parce qu'il va l'entraîner.
Il va l'entraîner, et puis il va l'entraîner hors de ses sentiers battuels, puisque il lui fait découvrir son univers, qui est la montagne. Elle, c'est une citadine, et il l'entraîne dans ces montagnes qui sont peut-être un petit peu symboliques aussi.
Dans le Valais, donc dans cette magnifique Suisse. Alors, ce qui est beau aussi, c'est que, évidemment, ça peut être une métaphore de beaucoup de choses, mais Claire va comprendre aussi qu'il y a une forme d'élévation. Il y a une montée chromatique dans votre livre que je trouve formidable, parce qu'on pourrait rester une relation terre-à-terre, platonique, etc. Mais à la limite, on s'en fiche un peu de savoir quel oui. type de relation ils vont entretenir. Il y a une relation affective. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'affection, de tendresse, de sentimentalité qui n'est pas au ras des pâquerettes, quoi. Voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui les élève tous les deux, d'ailleurs.
C'est parce qu'il n'y a pas de pâquerettes en montagne, vous savez,
ouais. Gilles. Non, il y a des Edelweiss. Mais,
ouais. Oui, oui. Ouais. Oui, absolument, ils s'élèvent ensemble, et je pense que le paysage, l'environnement, y est pour quelque chose.
Oui.
Sûr.
Alors, on ne va pas tout raconter, parce que... Alors, je vais dire aux auditeurs, ce livre m'a fait pleurer à la fin, mais je ne vous dis pas pourquoi... Je vais dire simplement une chose. Dans un livre, je parle sous contrôle de François Cereza, qui est quand même un grand romancier qui dirige le service littéraire. Et à chaque fois, il essaye de montrer la palette de romanesque qui sort régulièrement en France ou à l'étranger. Et je pense que dans un livre, dans un roman, il faut qu'il y ait une trouvaille. Il faut qu'il y ait quelque chose, un déclic qui fait que ce roman se démarque des autres. Et le dernier chapitre, je vous dis bien, le dernier chapitre, pour moi, est une vraie trouvaille. On ne va pas le dire, parce que c'est la révélation du livre. Et c'est là, je trouve, la marque d'un... Je trouve que vraiment, il faut que vous continuiez à écrire d'autres romans. Sylvie Bonin, donc paru au Lys Bleu, petit éditeur. Vous connaissez François Cereza, cet éditeur?
Oui, bien sûr.
Voilà. Et je trouve que votre éditeur ne se bat pas assez pour votre livre.
Bah heureusement, non,
c'est
là,
c'est la caractéristique des éditeurs, cher ami.
Non, c'est hallucinant quand même. Bon, voilà. Alors, on va en reparler. Et puis, vous nous donnerez un petit peu vos coups de cœur, parce que je sais que vous êtes une grande lectrice. Hier au téléphone, alors je sais que vous avez acheté en plus le livre de François Cérezac, vous l'avez lu, alors ça c'est formidable. On parle d'un auteur qu'on aime bien, en tout cas en tant que romancier qui est en traître, mais qui est un romancier qui est Robert Brasillach. C'est vrai qu'on parlait hier par téléphone d'un livre que j'aime beaucoup, qui est Comme le temps passe, et je relisais hier la magnifique anthologie des lectures historiques et érotiques de Jean-Jacques Pauvert, dans lequel il y a ce fameux chapitre de la nuit de Tolède que, alors à cause de vous, je me suis endormi très tard parce que j'ai relu ce chapitre qui est magnifique, qui est une belle écriture. Et on se dit d'ailleurs qu'un homme si sensible, on peut être... Alors ça, c'est dans les années, évidemment, son livre est sorti entre 34 et 36, ouais, je crois, et qu'en 41, 42, il aura des paroles peut-être qui n'auraient pas dû... formulé, en tout cas, il a été soutenu après, on va en parler, par un comité qui l'a défendu, parce que c'est toujours triste de fusiller un
mais enfin,
un écrivain.
Mais il a dit des choses, mais il en a écrit aussi.
Voilà, exactement. Alors, justement, François Cérezac, bonjour.
Bonjour.
Donc, Nos amis les traîtres, retour sur une spécialité française, la trahison. Alors, moi, je me suis aperçu, mais combien il y a de livres qui sont sortis sur les traîtres? Vous en citez plein déjà dans le livre. Il y avait un des derniers, c'était le livre d'Yvan Rioufol qui s'appelle Les Traîtres, d'ailleurs, publié par notre ami regretté Pierre-Guillaume de Roux. Oui. C'est incroyable. Comment vous travaillez? Vous avez une bibliothèque immense. Mais...
Non, j'ai un surmoi incroyable.
Mais c'est ça.
Et vous savez, quand on écrit un livre comme ça, d'abord, on peut considérer deux manières. Ou c'est ludique, ou c'est tragique.
Ouais.
Mais quand on écrit là-dessus, je pense que surtout, il faut qu'il y ait une certaine alacrité.
Oui, je vous fais confiance pour ça. Parce que oui, alors, c'est vrai, mais il faut de la documentation, il faut de l'histoire, il faut de la mémoire, il faut vous donner toutes les références. D'ailleurs, c'est à votre honneur. Vous citez même le très beau mot de Kessel sur la France.
Oui.
Quel est le plus beau mot que la France?
Oui. Enfin,
à chaque fois, il y a des références. Et alors, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Qu'on soit d'accord ou pas sur vos idées, si vous êtes républicain, monarchiste, napoléonien ou pas, on s'en fiche un peu. L'idée, c'est que vous nous entraînez aussi avec votre style, parce qu'on vous connaît, hein, la Faconde de Cérezac, surtout l'avant-dernier livre, c'était un livre incroyable, qui était un thriller, ou alors dans le langage, ça y allait, parce que vous êtes un enfant de la balle. Et vous connaissez l'argot par cœur. Et au-delà de ça, vous êtes un adepte de Michel Audiard, des films de Gabin et puis plein d'autres. Et vous avez une langue.
J'ai aucun mérite parce que figurez-vous que moi, mon père n'a pas usé ses fonds de culotte sur les bancs de la faculté.
Bien sûr.
Mais à 13 ans, il était ramoneur. Donc, il m'a appris certaines choses, ce qui fait que je sais, par exemple, poser un carrelage. Je sais faire certaines choses comme ça. D'ailleurs... Au tout début, quand j'ai été au Nouvel Observateur, puisque j'ai été au Nouvel Observateur pendant 20 ans, comme j'étais le plus petit salaire du Nouvel Observateur, j'arrondissais mes fins de mois en faisant des chantiers à droite et à gauche pour les gens du Nouvel Observateur, d'ailleurs.
Pour Jean Daniel?
Non, pas pour Jean Daniel. Non, pas pour Jean Daniel, pour d'autres.
Ouais.
Et donc voilà, c'est pour vous dire qu'en effet, les facultés, ce sont les facultés de la vie. Alors, pas forcément Audiard, comme vous disiez, mais... J'ai eu la chance d'être très ami avec Alphonse Boudard,
oui, bien sûr.
Très ami avec Louis Nucera, très ami avec Jacques Laurent, et puis ensuite avec Michel Déon, avec des gens comme ça, avec Claude Cabanne, qui a été l'ancien directeur de l'Humanité. Donc, des gens très différents, ni monarchistes, ni bonapartistes, ni de droite, ni de gauche, ni... plutôt libertaire, comme je suis un peu moi.
Oui, parce que François, vous êtes un homme libre, de toute façon. Moi, je pense que le mot liberté vous convient tout à fait, on se connaît un petit peu. Et moi, j'ai beaucoup aimé, comme je pense aussi Sylvie, votre livre, un des derniers livres sur le panache français était formidable, parce que ici, à Règle de Courtoisie, on aime le panache, on aime l'aventure, les conquérants.
C'est une chose qui se perd un petit peu, le panache.
Voilà. Alors, dans votre livre, Nos amis les traîtres, vous écrivez que le traître n'est qu'un parjure et un renégat, toujours un félon, souvent un fourbe, un faux cul et un délateur. Alors voilà, les adjectifs sont réunis pour montrer que tout ce que vous citez, alors je vais en citer quelques-uns, évidemment c'est comme un dictionnaire, donc ça va de A à...
C'est un dictionnaire d'ailleurs.
À T, absolument. Ouais. D'ailleurs Pétain est à côté de Philippe Égalité, vous voyez. et puis Chalet est à côté de Chirac, et puis Giscard est à côté de la Gestapo française. Ceci étant, c'est vraiment par ordre alphabétique. Alors vous écrivez que les traîtres fascinent, c'est vrai qu'ils fascinent, Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de morale. Les traits rétifs aux conformistes de l'honneur et de la fidélité redéfinissent tout en fonction de leurs intérêts, le bien ou le mal, ils s'en tamponnent. Et moi, il y a une chose que je trouve que vous n'abordez pas, c'est que tous les traîtres que vous citez, est-ce qu'ils pensaient vraiment un jour qu'ils allaient être traîtres ?
Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, au début, le côté un petit peu ludique ou le côté tragique, si on prend le côté ludique, regardez la littérature ou regardez le cinéma. Si il n'y a pas un traître dans Robin des Bois, dans Ivanhoé, dans un western, et dans les livres comme Le Bossu, par exemple, hein, avec le prince de Gonzague, ou le capitaine Fracasse, ou évidemment le comte de Monte Cristo, formidable livre, où là on a trois traîtres d'anthologie qui sont des amis, parce que c'est souvent les amis, ce sont souvent les proches qui trahissent, on n'est jamais aussi bien trahi que par les siens. Comme
on a l'impression qu'ils ont bien lu la Bible aussi.
Oui, mais évidemment.
Alors, pour vous, est-ce que le traître, c'est quelqu'un qui peut se racheter ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est forcément condamné ? Et forcément quelqu'un, parce que souvent il y a des traîtres qui ont rebondi dans l'histoire de, alors je pense à Fouché, à Talleyrand évidemment.
Et drôle de rebondissement quand même. Hein.
Oui,
vous savez, alors le Talleyrand il disait une chose, tout ce qui est excessif est insignifiant. Ben moi je vais vous dire une chose, tout ce qui est excessif est signifiant.
Ah oui, bien sûr.
Lui, c'est un maître parangon pour ce qui est de la trahison, hein. Je veux dire, c'est l'évêque d'Autun, imaginez un peu, il se tape un nombre de femmes incroyable. Alors évidemment, quand il était petit, il est tombé de son berceau, c'était un pied beau ou quoi, mais enfin en tout cas, il était évidemment bancal. On l'a appelé le diable boiteux, d'où le célèbre film de Sacha Guitry, Diable boiteux. Donc, pour moi, c'est pas vraiment quelqu'un de recommandable, vous voyez. Alors, c'est le père de la diplomatie moderne. Voilà. Ah bah merci, oui.
Ouais.
Donc, non, c'est vrai que si on prend les gens de cette époque, les maréchaux d'Empire, par exemple.
Ça, on va en parler après.
En un mot, je veux dire, on peut comprendre qu'à un moment, ils en aient ras-le-bol. Bah, oui. C'est-à-dire les guerres, les batailles, et puis il y en a certains d'entre eux qui meurent.
C'est le cas de Ney, d'ailleurs.
Mais il y en a certains d'entre eux qui meurent. L'âne, il est tué, les deux jambes tuées par un boulet.
Ici, on est boulevard Murat, alors.
Lassalle, le chef de la cavalerie légère, prend une balle en pleine tête. La bataille de Wagram, enfin bon, il y a 36 000 exemples, et finalement, tous ceux qui ont survécu, ils ont fini par trahir.
Ouais.
Mais trahir, pourquoi ? Parce que l'ambition débordante de Napoléon, son goût de la guerre...
Son goût de la guerre, oui.
Il faut bien le dire, même si c'est un personnage hors du commun, mais son goût de la guerre a fait que ces gens ont trahi, donc on peut...
Et lui n'aimait pas la trahison, non ? Oui, évidemment.
On peut excuser donc les trahisons de ces maréchaux.
Alors moi, je trouve que François Cereza, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Sylvie, vous êtes un peu dans la lignée de Balzac, parce que vous faites de la phrénologie. Vous dépeignez un peu comme Hergé dépeignait Rastapopoulos en disant qu'il avait une sale gueule. Enfin, il laissait entendre. Là, vous dites carrément, d'ailleurs, que Fouché, comme Carrier, comme Fouquier-Tinville, comme Marat, c'est la sale gueule par excellence. C'est-à-dire qu'il porte le mal, il porte la méchanceté, il porte peut-être la traîtrise sur son visage, qui ensuite, évidemment...
Ils se vengent de leur physique.
Oui, c'est ça.
C'est injuste de dire ça, mais Carrier est ignoble, vous savez, c'est lui qui est quand même responsable de toutes les noyades à Nantes, de toutes les exécutions sommaires, c'est un monstre terrible. Je veux dire, là, je viens de lire un livre, puisqu'on parle de panache et puisqu'on parle de trahison, un gars qui n'a jamais trahi, c'est le père d'Alexandre Dumas. Le père d'Alexandre Dumas, le général Dumas, était un formidable personnage, j'en parle et souvent je le cite parce que j'ai une admiration folle pour Alexandre Dumas, mais pour ce père aussi, qu'on avait surnommé le diable noir. Il était carteron, il était fils d'un marquis et de son esclave, il a été général de la Révolution, c'était un être hors du commun, il soulevait 5 fusils au bout de ses 5 doigts, il soulevait un cheval entre ses cuisses. Un jour, pendant la campagne d'Égypte, on lui dit qu'il y a une révolte dans une mosquée. Il prend pas le temps de s'habiller, il y va torse nu, sabre à la main, et il rentre dans la mosquée à cheval. Les gens qui étaient là, les musulmans, s'inclinent devant lui en pensant que c'était un ange qui est tombé du ciel. Vous voyez, c'est des belles histoires comme ça que Dumas, évidemment, a repris et enjolivé. Mais on c'est ces gens-là qu'on aime. Moi, j'aime pas Fouché, non. Je peux pas aimer Fouché. Fouché, le mitrailleur de Lyon qui fait tirer sur la foule avec des canons, non, je peux pas aimer.
Vous dites, d'ailleurs, vous citez Michelet, hein, vous êtes assez en adéquation avec ce que dit souvent Michelet. La figure déshéritée de Fouché, effrayée d'aridité, le prêtre athée, le dur breton, on oublie, hein, qu'il a, moi j'avais oublié qu'il était prêtre.
Bien
le,
sûr.
Le dur breton, le cuistre, séché par l'école, ça c'est magnifique.
Et professeur de mathématiques aussi.
Bah justement, tous ses traits étaient repoussants dans sa face atroce. Je pense au mot de Malraux, sa face immonde. Mais immonde, ça voulait dire déformé. Là, c'est vraiment atroce de naissance, presque. On sent que... Et vous dites, vous écrivez-vous un visage de mauvais traître. Ça, j'aime bien, parce que vous dites, y en a-t-il de bon ? Et aurait pu écrire François Mauriac ou Bernanos, c'est un homme glacial, d'un positivisme épouvantable. Réussir est son symbole, et il méprise les hommes parce qu'il sait beaucoup étudier. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est bien d'avoir de l'ambition, mais à ce point... en marchant sur les autres et en n'ayant finalement aucune morale au sens propre, c'est-à-dire qu'il ne peut même plus se regarder dans une glace, on se dit cet homme soit était fait par la politique, soit était fait pour la trahison, ou les deux à la fois.
Vous savez, il y a un portrait de Fouché qui est plutôt, où il est plutôt bel homme. Hein c'est au moment de l'avènement de Napoléon, je crois. Je ne sais plus si c'est Gros ou si c'est un peintre comme ça qui l'a peint, mais il est bel homme.
Il faudrait demander à Jean-François Coulon, qui est spécialiste de ça.
Mais vous savez, il y a une phrase de Charles Péguy qui dit « À 40 ans, on devient ce que l'on est
».
Et ce que l'on est, c'est tout à fait Fouché. Fouché, c'est d'abord un révolutionnaire, c'est un terroriste, c'est un jacobin pur et dur. Ensuite, il va se tourner contre Robespierre parce qu'il avait, comme il était plus ou moins fiancé avec la sœur de Robespierre. Et Robespierre avait senti que... Bon, on ne va pas faire l'apologie de Robespierre, mais sans... Robespierre...
Non, mais il pensait peut-être que c'était mieux de l'avoir avec lui que contre lui.
Et Robespierre a senti que Fouché était prêt à le trahir, ce qui s'est passé, puisque Fouché a pris le parti de deux autres ignobles qui sont Collot d'Herbois et Billaud-Varenne, et Barras, enfin bon, tout ça, c'est les députés jacobins qui tournent leur veste.
Non mais François, ce qu'il y a d'extraordinaire, parce que ça je le savais, je ne m'en souvenais pas, enfin, il a été donc séminariste à l'oratoire, bon, professeur de logique à Vendôme, professeur de physique aussi, et puis en septembre 93, qu'est-ce qui va se passer ? Il va être procureur de la commune, Chaumette qui est procureur de la commune, il entreprend avec lui une œuvre de déchristianisation de la nation.
Bien
et qu'est-ce qu'il va faire ? Bah, il va destituer les fonctionnaires suspects pour les remplacer par des frères, par des prêtres défroqués. Il va même, il faut abattre tous les signes extérieurs du culte, dépouiller les églises, démonter les clochers, détruire les signes religieux sur les tombes des cimetières.
Vous vous rendez compte un peu
On se dit, mais la trajectoire est incroyable quand même. Et c'est à la fois un traître et un renégat.
Et les prêtres... souvent termine sur l'échafaud, en plus.
Bien sûr, il y en a plein.
Parce qu'il les fait juger
absolument.
Par ses copains, Fouquier-Tinville, il y en a un qui s'appelle Dumas, d'ailleurs, et qui sont des juges qui finiront, eux aussi, d'ailleurs, sur l'échafaud, après la révolution thermidorienne, c'est-à-dire après que Barras ait pris le pouvoir. Donc, ce sont vraiment... C'est une bande de c'est une entreprise de canailles à l'usage des imbéciles.
C'est bien dit. Et alors, c'est lui qui va inventer les réseaux, les fichiers. En fait, il va créer les premiers fichiers policiers.
Avec
Vidocq, à Paris. Alors, je ne sais pas, moi j'ai visité, je ne sais pas si vous l'avez visité, ce très très beau musée de la police dans le 5e arrondissement, qui a été longtemps interdit aux moins de 18 ans, 21 ans même à l'époque.
Il faut dire qu'il y a des trucs.
Et les femmes. Maintenant, c'est ouvert. J'ai emmené des étudiants là-bas, d'ailleurs. Et alors là, il y a des choses horribles. Ouais. Mais je ne sais pas si on parle de lui, parce que c'est... Ça commence vraiment beaucoup au XVIIIe siècle. Oui, on peut comprendre que les fichiers de police...
Il est d'une certaine façon ministre de l'Intérieur, Fouché. Mais le chef de la police, le chef de la sûreté, c'est Vidocq.
Vidocq, oui.
Qui a été, comme vous savez, bagnard. Donc il les connaît sur le bout des doigts, tous ses copains et tous ses ex-bagnards. Et qui a servi de modèle pour qui ? Pour Alexandre Dumas, pour Victor Hugo et pour Balzac.
Bien sûr.
Vautrin, Javert, etc. Et Jacqual, chez Alexandre Dumas. Donc c'est un personnage hors du commun. Il est assez fascinant, hein, Vidocq. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez de la langue verte. Il a fait un dictionnaire de la langue verte. Vidocq, avec des mots qui maintenant sont plus usités, puisque maintenant, je dirais que l'argot, ça se
même à Ménil Bontemps,
ça se limite au verlan.
Oui, c'est ça. Voilà. On va terminer pour Fouché avec cette phrase de Chateaubriand, évidemment, le vice appuyé sur le crime, ça c'est une belle phrase. Chateaubriand n'aura pas toujours eu raison d'ailleurs, mais...
Il y a eu une pièce de théâtre qui s'appelait Le Souper, je ne sais pas si
vous
l'avez vu.
Oui, je l'ai vu avec Barbier même, à Combourg.
À Combourg.
Je l'ai vu là-bas justement. Mon admiration de Chateaubriand va jusqu'à Combourg, évidemment. Et puis alors donc, lorsque Napoléon et l'Empire s'effondrent, Fouché donc intrigue pour retrouver son ministre, Et en juillet 1815, bah, il est de nouveau à la tête de la police,
oui,
au service de la restauration de Louis XVIII. Mais le malin commet des maladresses, il en fait trop. Il s'attaque à des préfets royalistes. Et le 15 septembre, il est nommé ministre plénipotentiaire à Dresde. Retour à l'envoyeur. Et le 12 juin 1816, la sanction tombe. Donc celui qui a voté la mort de Louis XVI, frère de ce Louis XVIII, à qui il s'est empressé de lécher les bottes, est interdit de séjour. Il est banni de France. Alors, il va aller jusqu'à Trieste, près de Venise, là-bas, en Italie, où il va mourir à 61 ans des suites d'un refroidissement. J'aime beaucoup. Et alors, la phrase de... Évidemment, si on terminait par refroidissement, ça sera un peu court, mais François Cereza termine. Pour un homme glacial, c'est bien la moindre des choses. Voilà, ça, c'est le talent du romancier, parce qu'il y a un petit côté romanesque, alors que ça ne l'est pas du tout. Enfin, ce sont des personnages romanesques. Alors,
c'est-à-dire que chaque portrait est un peu... D'abord... Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une grosse documentation, en effet, oui. J'ai beaucoup de livres, notamment sur la Révolution française, oui. Si on parle de François Furet, qui a fait un livre en deux volumes formidable sur la Révolution française, mais évidemment, plein d'autres, il y a le dictionnaire des maréchaux de France, enfin, oui. J'ai tout ça, parce que moi j'ai été un grand passionné de l'Empire et de la Révolution.
Oui.
Dans ma jeunesse, j'étais un admirateur forcené de Saint-Just.
Oui. Je sais que vous avez des accents parfois anti-monarchistes, un peu primaires. Mais
oui,
bon,
oui, mais je suis assez primaire. Ouais, ça fait du bien.
Alors, à côté, Sylvie, à côté de Fouché, pas très loin, bon, il y a la Gestapo, mais il y a surtout Giscard. Moi, je voudrais qu'on dise un mot sur Giscard, parce que dans les années Giscard, il a été quand même ministre du général de Gaulle, il ne faut pas l'oublier,
oui, il a travaillé
plus,
aussi,
des
oui.
plus jeunes. Donc il a, justement, c'est ça que je voulais en venir à ça, puisqu'en 74, moi je me suis engagé en politique en 74, j'avais fait la campagne de son
auprès
concurrent.
Auprès de Giscard?
Non, pas du tout, c'était auprès de Chabon à l'époque.
Mais moi aussi, bah, j'ai fait la campagne de Chabon.
Bah, évidemment. Alors,
le pauvre Chabon, lui, il a été trahi par Chirac plus que par Giscard.
Voilà. Et c'est ça qui est bien pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que vous savez, aujourd'hui, les jeunes qu'on attend, ils disent, bah ouais, je suis né après Chirac. Je dis, oui, d'accord, mais vous devez connaître la vie de Saint-Louis aussi, ça ne veut strictement rien dire. Donc, 74, la jeunesse dorée de Neuilly et Passy se donne le mot Giscard à la barre. Alors, Giscard à la barre, vous savez qui a inventé ce slogan?
Non.
C'est Anne d'Ornano, la femme de Michel d'Ornano, qui avait créé ce slogan de l'époque où Valéry Giscard d'Estaing
et Giscard... Et après, Giscard en a marre.
Giscard, c'est le coup de barre, surtout.
Alors, vous écrivez, nous sommes... je termine la phrase et après on envoie un petit bobino. Nous sommes le 19 mai, Chirac sera Premier ministre, la fausse gentille Françoise Giroud sera secrétaire d'État à la condition féminine et la loi sur l'IVG sera adoptée grâce à Simone Veil et c'est l'année où Nixon est contraint à la démission. On se retrouve après ce petit bobino pour en dire deux mots avec François Cereza en direct sur Radio Courtoisie et Sylvie Bonin.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Comme on dit en argot.
Alors, la traîtrise, donc on est avec François Cereza et Sylvie Bonin. Sylvie Bonin pour le Valet de Cœur, le Lys Bleu et François Cereza pour Nos Amis les Traîtres. Donc c'est vrai que c'est une spécialité française et il n'y a pas si longtemps, Giscard avait trahi le général de Gaulle, puisqu'on le sait, en 69... au moment du référendum sur la régionalisation et sur la réforme du Sénat, Giscard a eu ce mot le 8 mai. Alors ça a été terrible. Quoi.
Il appelle à voter contre.
Voilà. Alors il faut dire à l'époque qu'il était chef des Républicains indépendants. C'était un courant centriste, je dirais libéral, assez pro-américain d'une certaine manière. Oui. Mais bon. Et ensuite, donc voilà. Et puis il va y avoir la trahison de Chirac. C'était le fameux appel des 43, les 43 députés qui ont appelé à voter Chirac, manœuvré par Pierre Juillet et Marie-France Garraud dans l'ombre, qui fait que Chirac a rejoint Giscard. Parce qu'il faut dire aussi à l'époque que le seul qui aurait pu mettre tout le monde dans, disons, dans, à droite, entre guillemets, ou qui aurait pu continuer dans l'action du général de Gaulle et de Georges Pompidou, c'était Pierre Messmer. Mais Chaban ayant refusé, il s'est retiré, et c'est Giscard qui a remporté le lot.
Oui, enfin bon, Chirac a œuvré aussi pour éliminer Chaban. Hein.
Exactement. Bon. Et alors, ils se sont débarrassés de Chaban, ils l'ont mis au perchoir.
Oui. Voilà. Oui, il était président de l'Assemblée nationale.
Et comme ça, il n'a plus rien dire. Enfin, il était vraiment un des arbitres de cette majorité.
Bon, il faut dire que pour un président, il avait une voix un peu au perché.
Bon, alors, il y a Giscard. Est-ce qu'il y a... Alors, moi, je voudrais quand même qu'on dise un mot de Brasillac, parce que ça nous ramènera peut-être à la littérature. Quoique Giscard d'Estaing, vous savez à quel fauteuil il est à l'Académie française.
Bon, enfin, ce qu'il a écrit, ça ne vaut pas tripette, alors bon...
Mais il est au fauteuil de Pétain. Je vais vérifier, mais je crois qu'il est au fauteuil de Pétain, oui, qui a été dégradé puisque son
ça aurait plutôt été Mitterrand qui aurait dû être à la place.
Ah ben, oui. Il n'a pas eu le temps de se présenter. Donc, il y a un très joli texte sur Brasillac, un doux poète ou un traître, sachant que l'un n'empêche pas l'autre. Pour De Gaulle qui refuse sa grâce en 1945, Robert Brasillac était, écrit-il dans Mémoire de guerre, a servi directement et passionnément l'ennemi, n'est-ce pas la marque d'un traître ? Il y a eu aussi, il y aura toujours polémique autour de Robert Brasillac, donc n'écrivez pas, je vous en supplie, à la radio pour dire que vous êtes pour ou contre. Je connais les arguments, et ici on va faire plutôt l'éloge en effet de l'écrivain, mais a-t-il mérité d'être fusillé au même titre que ceux qui ont opté pour la collaboration militaire ou la collaboration politique ? Si vous avez vu Les rayons et les ombres, je ne sais pas si vous l'avez vu tous les deux, on voit Fernand Brinon, par exemple, dans l'ombre de Luchaire, qui lui a été fusillé en 1947 d'ailleurs.
Luchaire aussi a été fusillé.
Et vous savez
que ces gens-là ont un point commun quand même, pas pour Debrinon, mais pour Luchaire, c'était des gens qui venaient de gauche, c'était
absolument
des pacifistes.
Or, peut-être Darnand un peu moins.
Ah ben Darnand, il était absolument pas de gauche. Lui, quand on voit les gens aujourd'hui du
Déa,
camp du bien,
Doriot,
qui se lèvent contre les pétinistes en disant c'était tous des fascistes et tout ça. Non, c'était pas tous des fascistes.
Non,
il faut savoir que Laval était le maire socialiste d'Aubervilliers. Il faut savoir que Jacques Doriot était le maire communiste de Saint-Denis. Il faut savoir que Marcel Déa était agrégé de philosophie, normalien, que c'était un ami de Léon Blum, qu'il était contre le fascisme et qu'il était contre l'antisémitisme. Ouais. Comment ça se fait que ce type, Marcel Déa, brillant, intelligent quand même et tout ça, en 42-43 à peu près, devient le parrain de la Waffen-SS.
Voilà, exactement. Vous dites d'ailleurs, que peut-on sauver d'un aussi triste sire, intellectuel dévoyé, socialo en peau de lapin, idéologue moisi et arriviste girouette. Alors, parce qu'il a été nommé, en 44, ministre du Travail, puisqu'il se retrouve à Sigmaringen avec tous les collabos déchus. Et alors, ça, vous racontez, c'est très intéressant, les 3D, hein, Darnand, Déa, Doriot.
Oui.
Alors, pour Brasillac, vous terminez quand même, on va pas revenir sur toute l'histoire de sa trahison, mais vous dites que à la fin, Albert Camus avait signé la pétition en faveur de la grâce de Brasillac, comme François Mauriac, Paul Valéry, Claudel, Colette aussi.
Comme tous, sauf Sartre, sauf Aragon, sauf Claude Roy. Savez que moi, j'ai été avec lui au Nouvel Observateur, bon, il m'aimait bien, il avait fait un grand papier sur mon premier roman, et je l'en avais parlé avec lui, il m'avait dit, mais vous savez, c'est le Parti communiste qui m'a dit,
c'est comme ça. C'est fou, hein.
Ouais.
C'était le communautarisme.
Parti communiste m'a dit, c'est comme ça, et pas autrement.
Et vous citez Albert Camus...
Alors que c'était un ami de jeunesse de Brasillac, hein.
Oui, absolument, hein. Oui, faut lire notre avant-guerre. Hein. Albert Camus écrit, en tant qu'homme, j'admirerais peut-être Monsieur Mauriac de savoir aimer les traîtres, mais en tant que citoyen, je le déplorerais parce que cet amour nous amènera justement une nation de traîtres et une société dont nous ne voulons pas. Nous ne voulons plus.
C'est ce que nous avons aujourd'hui.
Exactement. Alors, vous lirez ça. Alors, justement, Sylvie Bonnet, dans vos lectures, vous aimez tous ces livres de Brasillac, ces romans comme La Conquérante.
Ce que je voudrais dire sur le livre de François, c'est que on apprend beaucoup de choses, c'est très fouillé, c'est historique, c'est tout ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on s'ennuie jamais, parce qu'il y a toujours le clin d'œil, l'astuce. Moi, je dois dire que dans le portrait de notre président, puisqu'il existe, quand j'ai lu qu'il était de la Somme et que c'était quand même pas mal pour un banquier, je dois dire que ça m'a fait rire. Et le petit Mickey qui tape dans le dos du grand Donald, ça m'a aussi beaucoup amusé. Donc, c'est très agréable à lire parce qu'on sourit, alors que ce sont des sujets historiques sérieux et... Bravo.
Non mais vous avez raison de le dire et François à propos de Macron dit la trahison c'est chez ces gars-là est innée, c'est même une marque déposée. Macron il n'est ni de gauche ni de droite car comme l'a dit Hollande, qui n'a trahi personne parce qu'il ignorait lui-même qu'il était président de la République, il n'est rien du tout. Voilà, Macron, c'est Ursula von der Leyen aux commandes de l'Europe, qui n'a pas été élue par le peuple, qui est nulle en tout point, mais à qui il fait des bises en espérant devenir président de l'Europe. Enfin, voilà, il y en a comme ça, plus de 300 pages. Sylvie, quand vous lisez un livre comme ça, est-ce que ça vous donne, est-ce que vous êtes démoralisée, est-ce que vous êtes réjouie, ou est-ce qu'au contraire, vous allez continuer à aimer la politique?
C'est pour rigoler. Hein. Ouais.
Mais déjà, oui. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur toute la liste, et il y en a beaucoup, des traîtres, il y a ceux auxquels on s'attend. Je veux dire, quand on voit Cahuzac, on se doute bien que... Il n'est pas blanc-bleu partout. Hein. Ouais. En revanche, Lafayette, ça, j'ai découvert, voilà, je ne savais pas. Pour moi, c'était plutôt le panache, Lafayette.
Il fait tirer sur la foule.
Ben oui.
La phrase de Marie-Antoinette, que je n'aime pas particulièrement d'ailleurs, parce que pendant que le pauvre peuple crevait la dalle, elle se faisait faire des robes tous les deux jours.
Oui.
Mais elle dit, Monsieur Lafayette veut nous garder, mais qui nous gardera de Monsieur Lafayette?
Oui, c'est ce que vous dites dans le livre, en effet.
Ben oui, mais c'est vrai. Hein. Ouais. En plus de ça, il faut savoir qu'il est général de Révolution, hein, et avec tout son état-major, il trahit.
Ouais.
Donc, il s'en va. C'est-à-dire que... Ouais. Bon, il faut dire qu'à l'époque, la Convention envoie des commissaires politiques, pratiquement, et que lorsqu'un général se plante, on lui demande de venir à Paris, et en général, c'est pour le raccourcir. C'est pas...
Et ça ne l'a pas empêché d'être fait citoyen d'honneur des États-Unis à titre posthume en 2002. C'est vrai qu'il a une grande figure aux États-Unis.
C'est voilà. normal, ça. C'est normal.
Mais il faut
Mon cher Gilles, il y a quelqu'un qui est dans l'ombre et qui a fait beaucoup plus que Lafayette, parce que Lafayette avait déjà le sens du RP, de la relation publique, c'est Rochambeau. Et le général de Rochambeau, c'est sans doute lui qui est quand même la véritable œuvre d'aide aux Américains. Et lorsque la bataille de Yorktown s'achève, se termine, c'est la flotte, c'est l'amiral, je ne sais plus quel est son nom, mais c'est Rochambeau qui est quand même qui est à la baguette, qui est à la manœuvre. L'autre, il est toujours là un peu pour parader comme un pan. Ouais. Alors, il y avait un film à l'époque qui avait été fait il y a très longtemps, on ne repasse jamais à la télévision, qui s'appelait Lafayette avec Michel Leroyer.
Oh oui, il était beau.
Et oui. Et moi, j'ai bien connu Michel Leroyer, parce que c'était un acteur que j'aimais bien. Il avait joué.
Mais il avait joué Cyrano.
Le Chevalier de Maison Rouge.
Il avait joué surtout dans Le Chevalier de Maison Rouge. Sylvie connaît bien. Et moi, j'ai été dans ma jeunesse l'assistant de Claude Barma.
Le réalisateur.
Le deuxième ou troisième assistant. Hein, c'est-à-dire que je balayais, je répondais au téléphone.
Le réalisateur d'Apostrophe aussi.
Oui, mais surtout le réalisateur du Chevalier de Maison Rouge.
Oui, c'était la grande époque, c'était un vivier de création.
Et il a fait aussi le
Jacques le Croquant.
C'est à ce moment-là où j'ai travaillé avec lui, l'adaptation des Rois maudits de Maurice Druon. Ce qui m'a amusé, parce qu'ensuite je suis devenu très ami, très proche de Maurice, Druon.
Avec la révélation de Geneviève Cazil qui était éblouissante.
J'allais la chercher dans sa loge, moi.
Une fascination.
Je me disais peut-être que.
Extraordinaire.
Eh bien non.
Parce que c'est le genre de personne qui apparaît très froide comme ça, et on sent qu'il y a de la braise derrière, quoi.
Ouais, enfin moi je n'ai pas senti la braise.
Voilà, vous écoutez, alors on écoute toujours nos amis Sylvie Bonin pour Le Valet de Cœur, son roman paru Ulysse Bleu, et nos amis les traîtres, retour sur une spécialité française, la trahison. Après la traîtrise, qu'est-ce que vous allez étudier?
Au Cherche-Midi,
exactement, au Cherche-Midi.
Ouais, justement,
qu'est-ce que vous allez faire après les traîtres?
Après les traîtres, je...
Le panache, les traîtres...
Je pense que je vais m'arrêter là. Non, il y a un...
Les pleutres
Oui, les lâches, oui.
Les lâches.
J'avais fait un truc sur le western.
Oui, magnifique.
Et il y a un truc qui m'amuserait, c'est le péplum. Voilà.
Oui, pour ça, vous avez trouvé un éditeur pour ça. Voilà, oui. S'approcher du micro. Alors, je voudrais simplement, Sylvie Bonin, dans votre livre qui s'appelle Le Valet de Cœur, vous faites des citations d'auteurs aussi de temps en temps. Hein. Ça, c'est intéressant parce que dans un roman, généralement, on se réfrène à les citer. Quels sont vos auteurs de prédilection, vous? On parlait du 19e, vous êtes proche de Dumas, Balzac, Eugène Sue.
Oui, ça, j'ai lu beaucoup, mais aujourd'hui, ce que j'aime dans un livre, j'aime bien, en fait, qu'il m'entraîne loin. Du quotidien, dans le temps comme dans l'espace. Alors j'ai évidemment un petit peu mes domaines de prédilection, j'aime bien m'évader. Alors j'ai la montagne, ça vous l'avez vu à travers ce livre, et l'Antiquité, j'adore l'Antiquité. Ouais. Alors j'ai beaucoup aimé des livres J'en ai noté quelques-uns qui font revivre l'Antiquité comme si on voyait les gens tous les jours. Et ça les rapproche de nous, comme si on allait prendre un café ensemble. Ça les rend humains. Et il y a comme ça des livres que j'ai beaucoup aimés. C'est
Trouvadis.
Sienkiewicz.
Il y a l'ami du prince. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Non.
C'est très intéressant. C'est l'histoire de Sénèque, qui a été appelé par Agrippine pour être le professeur de Néron. Caligula. Caligula, c'était l'ancien mari de Néron. Et alors au début, c'est ce petit garçon gentil à qui il apprend des choses. Et puis au cours du livre, on voit ce qui devient l'horrible bonhomme qu'il a été, l'incendie de Rome, etc. Mais on a l'impression vraiment de les côtoyer. Ça, je trouve que ça les rend très, très humains.
Vous savez qu'il y a une phrase de Sénèque que je trouve formidable. Bon, c'est un philosophe, il est surtout précepteur de Néron. Néron, d'ailleurs, le forcera à se suicider, comme vous savez.
Exactement.
Mais Sénèque, il disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles.
Exactement, c'est très juste. Et puis, il y a aussi deux livres
aujourd'hui.
De Madeleine Miller qui s'appelle Le chant d'Achille, qui raconte beaucoup cette amitié entre Achille et Patrocle, et puis c'est la guerre de Troie, et puis c'est tous ces héros
La guerre de Troie, c'est toujours actuel, hein, quand on regarde l'actualité d'aujourd'hui.
Et puis Circé, évidemment, avec Ulysse. Et puis, sinon, La montagne. Moi, j'aime bien les livres d'Eri Di Luca, parce qu'à la fois de la poésie, il nous entraîne, lui aussi, comme,
l'Italien,
comme dans Impossible, comme le poids du papillon, des choses comme ça. Et puis, j'adore l'humour, la fantaisie et un peu l'absurde. Et alors, je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, mais vous le connaissez sans doute, il y a un livre de Costolani qui s'appelle « Le traducteur kleptomane ». Ce sont des nouvelles, merveilleux.
On note.
On est dans l'absurde. La fantaisie, l'humour. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça aussi, ça vous entraîne loin d'un quotidien qui n'est pas toujours très rigolo.
Moi, j'en suis resté aux nouvelles de Buzzati.
J'adore aussi.
François Cereza, alors vous dirigez donc le service littéraire.
J'en avais apporté un exemplaire pour Sylvie.
C'est sympa.
Malheureusement, en vélo, je sais pas.
Il a pris la poudre d'escampette.
Il a sauté.
Peux peut-être le trouver quelque part.
Oui, on trouve parce que beaucoup de gens nous demandent où trouver le service littéraire.
Nulle part, c'est ça qui est bien.
Dans le 14e, avenue Gérald Leclerc, je le trouve. Quand je dois l'acheter pour des amis, il y a un petit kiosque, il le met en avant.
Tous les kiosques, beaucoup de kiosques dans le 6e, 7e, 14e, il y en a même dans le 16e, il y en a maintenant un peu partout dans Paris. Je suis incapable de vous dire parce que c'est pas moi qui fais la distribution.
Il n'y en a pas à Neuilly, il n'y en a pas à Montrouge.
Il y en a à Neuilly.
Parce que c'est intéressant.
C'est pas un kiosque, c'est une dame qui est libraire et qui prend service littéraire.
Moi, je conseille aux éditeurs de s'abonner. Voilà. Alors, on va avoir dans cette émission notre ami Paul-Marie Couteau, qui est dans sa demeure corrézienne. Je crois qu'il est en ligne. Est-ce que vous nous entendez, Paul-Marie ?
Ah oui, je vous entends et je vous écoute même.
Alors, je ne vous présente pas François Cereza, que vous connaissez sans doute. Et puis,
Bien sûr, François Cereza.
Et Sylvie Bonin. Alors, Sylvie Bonin, c'est une journaliste. Alors, je ne l'ai pas tellement présentée tout à l'heure, mais elle a fait Sciences Po, elle a fait des études de psycho, elle a même fait le CPJ. Elle a travaillé dans l'édition à Madame Figaro, Figaro Magazine. Enfin, et actuellement, vous travaillez toujours pour 3 étoiles aussi. Alors, Paul-Marie, j'ai sous les yeux, moi, le nouveau conservateur Souveraineté numérique, Les carottes sont-elles cuites ? Je crois que vous vouliez dire en mots, il est en vente, là, cette semaine.
Alors, oui, je ne sais pas, j'ai un retour, c'est pas très commode.
On vous entend bien.
Je voudrais vous parler du nouveau conservateur pour deux raisons. D'abord...
Allez-y, on vous entend.
C'est très bizarre.
C'est pas grave, allez-y.
Avec 5 minutes de retard. Bon, peu importe.
Coupez votre radio.
Je voulais vous parler du nouveau conservateur à deux titres. Pas à Paris, mais le nouveau conservateur, c'est une émission accueillie à toute une famille, la famille dont vous faites partie, mon cher Gilles, fondateur du nouveau conservateur. Il y a 6 ans, nous sommes déjà à mon numéro 31. Je viens de donner le
numéro 30, ça c'est le numéro 30 qui vient de sortir, oui.
Et je viens de donner le bout à tirer du numéro 31 qui sera consacré à la société organique, à l'union maurassienne. De toute façon, le nouveau conservateur est assez nettement monarchiste, il faut le dire clairement. Bref, le numéro 30 est entre vos mains, c'est celui du mois d'avril. Mais ce que je veux souligner, c'est que il y a toute une équipe derrière le Nouveau Conservateur. Il y a vous-même qui fut un fondateur, Valentin Corr qui fera l'émission la semaine prochaine, Pierre Lours, Guillaume de Thieulois, bien entendu, qui fera l'émission de temps en temps cet été. C'est bien que nous allons répartir les rôles tout au long de cet été pour les mercredis du Bel Observateur sur Radio.
Rapprochez-vous de votre micro, Paul-Marie, un petit peu, on me dit, à la technique. C'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux.
Je crois qu'il y a une interférence, j'entends l'émission qui... Il me semble d'ailleurs que le numéro que vous avez en main vaut d'être noté. Les carottes sont-elles cuites? Ça veut dire, est-ce que la souveraineté numérique de la France est encore jouable? Et nous avons un super article d'un certain Thibaut Perrin, personnage formidable d'ailleurs, qui relate nombreux efforts faits par la France pour rester dans la course. Ça a été assez constant jusqu'à la fin du siècle dernier, notamment en matière informatique. Rappelons que le Minitel est une invention française, qu'on aurait pu faire si on n'avait pas attendu l'Allemagne, qui en fait jouait le jeu des États-Unis.
Si je lui coupe la parole, il va râler.
Et l'Allemagne nous a plutôt retardé à partir du Minitel. Il ne pouvait pas faire un Internet français. Bref, encore. Pardon ?
Vous m'entendez pas ? Si, très bien. Il y a des petites coupures, mais on vous entend.
Nous avons encore des armes pour jouer, mais il faut que le politique le veuille, pour jouer notre rôle de la souveraineté numérique. Ce qui est très paradoxal, c'est que la France a les moyens, mais elle ne les utilise pas parce qu'elle attend l'Europe, et l'Europe ne joue pas le jeu de la souveraineté.
Ouais.
En fait, la France était souveraine, et quitter l'Europe et l'équivoque européenne, elle serait beaucoup plus efficace. C'est ce que dit Thibaut Collin, de certaine façon. C'est de quoi il parle. Un haut fonctionnaire dont je n'ai pas le titre, le commissaire à la marine.
Le titre exact, c'est, je vais vous le dire, je l'ai sous les yeux, ancien commissaire des armées, donc. Et d'ailleurs, il dit, toute l'histoire humaine n'est qu'un réseau de dépendance sans que jamais la notion de souveraineté ne heurte l'esprit des philosophes. Voilà.
Bon. Enfin voilà, tout le dossier est très intéressant. Je suis là d'ailleurs. Il n'y a pas qu'un dossier, c'est la moitié.
Bon, Paul, la liaison est vraiment mauvaise tout d'un coup. Je ne sais pas ce qui se passe.
Voilà. Et moi non plus, parce que je vous entends deux fois. Donc il y a...
Vous n'avez pas de poste branché, là?
Pardon?
Vous n'avez pas de poste branché? Enfin, non, vous n'écoutez pas la radio. Oui. Non, parce
tout
que
à l'heure, j'ai fait un duplex avec Moscou.
Ah bah, c'est pour ça. Bon, on va terminer. Dites-nous la fin, parce qu'on me dit en cabine que la liaison est vraiment très mauvaise. Alors, pour conclure. Oui, un dernier mot, Paul.
Oui, je le dirai la semaine prochaine. C'est Valentin Corr, membre de l'équipe du Nouveau Conservateur.
Oui, absolument.
Je le dirai, j'aurais voulu de la question de la traîtrise.
Bien sûr, mais il a plus l'écouteur, c'est dommage, mais je vous passerai le livre, vous verrez, vous retrouverez des choses formidables en écho à tout ce qu'on dit aujourd'hui dans la vie politique.
Cette phrase peut encore paraître qu'il y a des traîtres qui sont des hommes libres, vous faites des loges des hommes libres, et vous inquiétez des traîtres qui sont des hommes libres. Talleyrand a joué son jeu en homme libre, et pourtant il peut être considéré comme traître, et De Gaulle aussi était considéré comme traître.
Oui,
il a joué
son bien sûr.
On peut être les deux, homme libre et traître. C'est beaucoup plus compliqué.
Exactement.
On comprendra cette conversation.
Merci Paul-Marie Couteau, et on vous retrouve la semaine prochaine.
Est-ce que je peux ajouter un mot?
Oui, allez-y.
À propos de traité, c'est pas une disque à destin.
Bon, Paul, on vous entend plus, je suis désolé. On va enchaîner, je suis vraiment désolé parce que j'aime pas couper la parole à des intervenants extérieurs, c'est très mal élevé, mais là, le son est très très mauvais, malheureusement. Alors, pour terminer, je vais vous laisser la parole, vous avez 2 minutes chacun, ma chère Sylvie. Votre livre, donc, le Valet de cœur, qui est une histoire à la fois sentimentale, tragique, mais en même temps pleine d'espérance. C'est paru aux éditions Le Lys Bleu, Le Valet de Cœur. Pourquoi Le Valet de Cœur? Est-ce qu'on peut le révéler quand même? Je ne l'ai pas dit, hein, exprès. Mais bon.
Bon, alors, je ne vais pas vous faire la...
Sans révéler la fin.
Le jeu de mots du valet de cœur, ça se déroule dans mon valet de cœur aussi.
Oui.
Bon,
oui.
Voilà, on ne va pas révéler la fin.
Absolument. Et puis, François Cereza, nos amis les traîtres, retour sur une spécialité française, la trahison. Est-ce que vous avez aimé des traîtres en particulier quand vous avez écrit ce livre, que vous avez peut-être découvert ou redécouvert? Parce qu'on peut aimer des traîtres.
Non, pas beaucoup, non. J'aime pas beaucoup
dans toute une vie.
J'aime pas beaucoup les traîtres. J'aime bien les traîtres de fiction.
Ouais.
Parce qu'ils n'existent
ouais.
pas.
Ouais. Non mais oui.
Bah oui.
C'est sûr.
Les autres. Non, alors je dis pas que autrement je n'aurais jamais fait ce livre. C'est passionnant justement la trahison. Vous savez, on trahit par ambition,
ouais.
par lâcheté. Ou par vengeance.
Ouais.
C'est
ou par soumission
les trois grands
parfois.
Trucs. Et on peut ajouter à ça aussi, puisqu'on parlait de la collaboration, par dépit et par déception.
Ouais.
Les déçus, il n'y a rien de pire.
Ouais. Bah, Nantalan disait, un homme déçu mérite de l'être.
Ah.
Est-ce que vous avez des amis traîtres? Est-ce que vous avez eu des amis qui vous ont trahi? On en a tous.
Oui. Oui, puis on ne sait pas au départ que ce sont des traîtres.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, oui.
Oui, mais qu'il y avait un œil sur ma femme, par exemple.
Si c'est qu'un œil. Oui,
l'œil était dans la tombe et regardez qu'un.
Non, voilà. Quel est le dernier livre que vous avez aimé
Je vous dis, c'est le livre,
oui,
sur le général Dumas, qui
d'accord.
est fait par un type qui s'appelle Claude Ribes, qui lui-même est guadeloupéen et qui est normalien et agrégé de philo.
D'accord. Et je dis simplement qu'en couverture, en une de Service littéraire, il y a Théophile Gauthier,
ah oui. Capitaine
Fracasse, magnifique. Et c'est bien de retrouver, parce que vous mettez toujours à l'honneur des entités romanesques littéraires qu'on n'a pas oubliées, mais qui reviennent un peu sur le devant. Et moi, je suis content de vous les traiter comme s'ils étaient dans l'actualité.
Oui, mais, et puis dans mon petit édito, je mets Lampedusa aussi, parce que
Lampedusa,
là, le guépard et le gâteau pardo, c'est...
Oui. Alors, je vous conseille quand même de lire, de regarder, vous allez râler, mais je trouve plutôt réussi en 6 épisodes, parce que c'est vrai que le livre est assez gros. Il y a eu 6 épisodes sur Netflix, et c'est très très bien tourné.
Et de quoi?
Du guépard.
Oh non, non.
Ben voilà, j'en étais sûr.
Alors là je vous réponds tout de suite.
Franchement.
Burt Lancaster, c'est le prince Salina. C'est comme les abrutis qui refont Bénure. Bénure, c'est Charlton Heston.
Exactement.
Et que le cardinal était tellement bien.
Ben oui,
merci.
Autant d'emporte-vent.
Je suis content, je l'ai
reçu. C'est Clark Gable.
Merci, chers auditeurs. Il est bientôt 17h et vous écoutez Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur, dirigé aujourd'hui par Gilles Brochard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 13 mai 2026, de 16h à 17h, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.